Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Pâques 2010, Pentecôte 2010, plus de 50 jours nous séparent du précédent entretien que nous avions eu avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, et nous sommes heureux de le retrouver. Bonjour Monseigneur Haillé.
Bonjour.
Bonjour Olivier Drapé.
Bonjour.
Délégué épiscopal à l'information et à la communication. Dans cette émission, beaucoup de sujets que nous allons évoquer ensemble, les visites pastorales dans le diocèse, des sujets de société et également, bien sûr, la pastorale des vocations et l'année sacerdotale. Mais Monseigneur, nous allons commencer par les événements de l'Église universelle et notamment le pape qui voyage.
Oui, le pape a beaucoup voyagé cet an dernier et des rencontres assez significatives. Il y a eu une rencontre à Malte, hein, où vous savez qu'un Maltais sur deux est venu à la rencontre du Saint-Père, ce qui est quand même assez extraordinaire, dans une ambiance très festive, et en particulier les jeunes qui lui ont fait un bel accueil. Et il y a eu aussi cette rencontre très émouvante à Turin pour l'ostension du Saint Linceul, hein, où le pape a fait en particulier une très belle méditation qui a beaucoup marqué les esprits devant le Saint Linceul sur le silence du samedi saint dont était particulièrement témoin cette relique qu'il appelait aussi une sainte icône de la passion du Christ et de sa résurrection. Et puis il y a eu aussi ce voyage mémorable au Portugal, où un nombre impressionnant de Portugais et aussi d'Espagnols, de Français, d'autres nationalités bien sûr, sont venus prier avec lui à l'occasion du 13 mai, en particulier à Fatima, pour le 10e anniversaire de la béatification de François et Jacinthe, les petits voyants de Fatima. Et moi, j'étais très impressionné justement de voir ces foules se déplacer. On a même dit qu'à Fatima, il y avait eu 500 000 personnes, soit plus de monde encore que pour Jean-Paul II lors de son dernier voyage au Portugal. C'est dire aussi que le peuple chrétien répond parfois de manière assez, par une mobilisation assez massive aux critiques et peut-être parfois aux campagnes médiatiques, hein, qui ont précédé et secoué l'Église, comme on le sait, dans ces derniers mois, par un plus grand attachement encore au Saint-Père et à travers le Saint-Père, bien sûr, à l'Église, hein, que le Christ nous a donné justement pour nous conduire dans notre vie et accomplir notre vocation chrétienne.
Le pape va se rendre prochainement à Chypre.
Le pape va se rendre à Chypre, hein, qui est un endroit un peu sensible, hein, de la Méditerranée, et il va bientôt conclure aussi l'année sacerdotale, puisque nous vivons dans l'Église universelle à l'heure du sacerdoce, hein, qui peut être décrié par certaines manières, mais qui a permis de souligner l'importance de cette vocation dans l'Église d'aujourd'hui. Et ce que je note aussi, c'est la mobilisation des prêtres et des fidèles au cours de cette année, en particulier à Ars, où des centaines de prêtres chaque jour, en moyenne, passent vénérer le Saint-Curé, qui sera prochainement proclamé patron des prêtres du monde entier. Et l'année sacerdotale sera conclue par une rencontre internationale à Rome, les 9, 10 et 11 juin prochains, autour du Saint-Père. Aujourd'hui, je sais que 8000 prêtres sont déjà inscrits, quand on sait que pour le jubilé des prêtres, le 18 mai 2000, il y avait déjà 6500 prêtres. On voit que le nombre est largement dépassé aujourd'hui.
Alors nous reviendrons dans la troisième partie de cette émission à la fois sur les vocations et sur l'année sacerdotale. C'est la deuxième fête de Pentecôte que vous viviez dans le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Où étiez-vous à Pentecôte?
Cette fête de Pentecôte fut riche en événements. Le matin même, j'étais à Notre-Dame du Refuge, donc à Anglet, chez les servantes de Marie, pour la rencontre des biennales de l'hospitalité, jeunes, des hospitalités francophones, donc accueillies cette année par l'hospitalité basco-béarnaise, hein, par les jeunes de l'hospitalité de notre diocèse. Une centaine donc de participants qui venaient d'un peu partout en France. Une rencontre très intéressante où ils ont pu partager leur expérience de service des malades à Lourdes à l'occasion des pèlerinages diocésains, vivre un temps fort spirituel de découverte aussi de notre diocèse et de ses beautés aussi récréatives, puisqu'il y a eu quelques jeux de plage, je pense, dans ce week-end. Et puis, il y a eu cette très belle messe de la Pentecôte avec la confirmation donnée à Amélie Hustex, qui fait partie des responsables de l'hospitalité basco-béarnaise jeune et à qui je viens de confier une mission de rejoindre l'équipe diocésaine responsable de la pastorale des personnes handicapées. Donc c'était très significatif, un beau témoignage qu'elle donnait à tous ces jeunes de recevoir la confirmation qu'elle n'avait jamais reçue et qu'elle demandait comme d'autres adultes et qui s'est conclue par un envoi en mission tout à fait particulier dans notre diocèse. Puis l'après-midi, eh bien, c'était comme dans tous les diocèses de France, la confirmation des adultes hein, qui se sont préparés grâce au catéchuménat diocésain à cette démarche importante dans la vie chrétienne. Il y avait 25 adultes, dont 5 ou 6 grands jeunes lycéens. Et c'est toujours très émouvant hein, de voir cette démarche personnelle d'hommes et de femmes qui, grâce souvent à une rencontre avec un aîné dans la foi, pour l'une des jeunes filles qui était là, élevée dans une famille plutôt anticléricale, ce fut la rencontre d'une vieille dame qui lui a ouvert la porte de l'église alors qu'elle était en train de fermer l'église un soir dans sa paroisse. Et voyant sa demande, le désir qu'elle avait de rencontrer le prêtre, eh bien, elle lui a ouvert l'église. Et on peut dire qu'elle lui a pas seulement ouvert l'église au sens matériel du terme, mais elle lui a ouvert l'église comme communauté dans laquelle elle prend toute sa place grâce à ce sacrement de la confirmation.
Alors justement, vous-même et vos vicaires généraux confirmez beaucoup en ce moment, notamment au printemps. Vous recevez beaucoup de courriers puisque les confirmés ou les confirmants doivent vous envoyer une demande, enfin une lettre un peu, j'allais dire presque une lettre de motivation voilà. À l'évêque. Quelle est la teneur de ces courriers? Peut-être qu'est-ce que vous retenez vous de tous ces courriers que vous lisez?
Alors je reçois quasiment entre 1000 et 1200 lettres de jeunes qui demandent la confirmation et que je ne confirme pas moi seul, bien entendu. Je suis obligé de déléguer des vicaires généraux et parfois épiscopaux pour assumer hein, ce ministère magnifique. Donc c'est vrai que toutes ces lettres sont très riches souvent d'événements personnels, de motivations personnelles, parfois où ces jeunes partagent des souffrances, pose des interrogations sur la foi, sans doute, mais aussi sur la vie de l'Église, exprime leur désir de recevoir la confirmation pour grandir dans la foi et prendre leur place dans l'Église, devenir davantage témoin de manière plus courageuse. Alors il est évident que pour lire ces courriers et pour y répondre, je me fais quand même aider, dans le sens que ça fait quand même un monceau assez important de courrier, mais je me fais fort quand même de répondre personnellement à chacun. Alors, inutile de dire qu'il y a une lettre type que j'ai rédigée, et je me fais aider pour qu'il y ait un paragraphe personnalisé dans la lettre qui va reprendre ce qu'il y a de plus personnel dans la lettre qui m'a été adressée. C'est de cela que je prends vraiment connaissance, pour prendre vraiment connaissance des interrogations, des réflexions et des motivations de ces jeunes. Et je signe évidemment chacune de ces lettres personnellement.
Donc vous avez confirmé le 23 mai à la cathédrale de Bayonne 25 jeunes et adultes du diocèse. Et la Pentecôte se poursuit avec son lundi.
Voilà, son lundi de Pentecôte qui est à nouveau possible de chômer pour la plus grande joie de tous, même si personne n'a oublié quand même une journée de travail offerte pour les personnes âgées, comme le lundi de Pentecôte avait été établi en son temps, comme on le sait. Mais le lundi de Pentecôte est traditionnellement, même s'il n'est plus considéré comme le jour octave, un jour de l'octave de la Pentecôte, puisque nous sommes entrés dès le lundi de Pentecôte maintenant dans le temps dit ordinaire, qui est le temps de l'Église, le temps de la mission de l'Église, hein, dans le souffle même de la Pentecôte, eh bien, traditionnellement, c'est un jour de pèlerinage. Et j'ai pu participer pour la première fois à un très beau pèlerinage annuel du Pays Basque, donc le pèlerinage d'Ainhoa, hein, où nous avons porté depuis l'église d'Ainhoa jusqu'à la chapelle Notre-Dame de l'Aubépine, qui surplombe non seulement le village, mais le Pays Basque intérieur et jusqu'à l'océan. Et bien, nous avons porté la statue de Notre-Dame de l'Aubépine. Hein, et j'étais très impressionné par la qualité de cette démarche traditionnelle, en invitant et en encourageant d'ailleurs les fidèles à demeurer attachés à leur tradition de dévotion populaire, parce qu'il y a plus qu'une dévotion populaire, il y a vraiment une expression de la foi d'un peuple très enraciné, en effet, dans ce Pays basque, dans la foi chrétienne qui a été transmise. Et je crois que ces traditions permettent de continuer à transmettre cette vie, cette foi vivante. Et je notais d'ailleurs hier, en rencontrant un groupe de parents d'enfants de la confirmation du Pays basque intérieur, je notais justement que nous sommes encore ici dans le Pays basque, dans un pays d'enracinement culturel et dans un pays de transmission, dans un pays où il est tellement important de transmettre la maison, transmettre la terre quand on le peut, et en même temps transmettre la foi. Et donc je crois qu'il y a des valeurs là qui ne sont pas banales aujourd'hui dans nos pays de vieille chrétienté et qui me paraît utile de souligner.
Alors, Monseigneur Ayer, vous avez béni la nature à Hainois. Est-ce que c'est un rite qui vous parle? Et à quoi pensiez-vous, vous aviez une croix en main, quand vous bénissiez à la fois les montagnes de Navarre, la Rune, toute la côte basque? Que se dit un évêque quand il donne cette bénédiction?
Il a l'impression de participer à la bénédiction du Seigneur sur la création. Et il a l'impression, en effet, que à ce moment-là, une communauté chrétienne, même si elle n'est pas, elle ne rassemble pas des foules, quoi, qu'il y avait quand même des centaines de personnes à Hainaut ce jour-là, s'unit à la prière du monde et contemple la création comme un don de Dieu et pense que la création, signifiée par cette bénédiction aux quatre points cardinaux, a besoin de cette bénédiction du Seigneur.
Venons-en maintenant à la première grande partie de notre entretien. Depuis notre dernier entretien, vous avez fait trois visites pastorales. La première, c'était les deux paroisses du doyenné d'Anglette.
Voilà, donc je poursuis mes visites pastorales à ma plus grande joie pour aller à la rencontre des réalités de nos communautés paroissiales, donc avec beaucoup en effet de rencontres avec des personnes engagées dans la vie de l'Église à divers titres. De manière très rapprochée parfois des pasteurs, comme le conseil pastoral ou le conseil économique ou les équipes d'animation paroissiale quand elles existent, et puis aussi dans les différents secteurs de la pastorale paroissiale, que ce soit le domaine de la compassion, de la transmission de la foi, de la solidarité, de la liturgie et tant d'autres domaines. Et tant de bénévoles, tant de petites mains aussi, qui constituent ce tissu ecclésial, une communauté, et qui, à l'occasion d'une visite pastorale comme celle-là, permet de se rassembler, de se rencontrer aussi entre eux, de se mieux se connaître, et d'une certaine manière de manifester leur sentiment d'appartenir à une communauté. Donc ça, c'est très important. Et en même temps, je découvre évidemment toutes ces réalités humaines d'un territoire dans lequel la communauté déploie sa mission. Alors à Anglette, j'étais très marqué en ce sens par la visite des grandes surfaces commerciales qui ont élu domicile dans cette vaste commune d'Anglette, pour l'ensemble du BAB d'ailleurs souvent, qui sont quand même des structures employeuses très, très importantes et qui connaissent évidemment les difficultés de la crise économique, quoi qu'elles arrivent à surmonter ces difficultés. J'ai visité aussi l'aéroport, qui se trouve pour une bonne part sur le territoire de la commune d'Anglette, et aussi l'usine Dassault, qui emploie 1000 salariés. C'est dire que c'est l'une des structures les plus importantes après l'hôpital, le centre hospitalier de la Côte Basque. Donc c'est assez intéressant de pouvoir sentir les difficultés des uns et des autres, surtout en période de crise économique comme celle que nous traversons, avec tous les problèmes sociaux induits, et de voir aussi l'inventivité à la fois des chefs d'entreprise, des élus, pour essayer de répondre à ces difficultés, et puis aussi le sens apporté par l'Église. Vous voyez, par exemple, au cours de la visite pastorale à Cercastète et Sauvagnon, c'est-à-dire Sainte-Croix-des-Lacs, Cercastète et Sainte-Quitry-Sauvagnon, donc là c'est dans le Béarn, dans la grande périphérie de Pau, au nord de Pau, la rencontre avec les élus était très instructive pour mieux saisir les enjeux économiques, l'industrialisation, le monde agricole sur lequel je reviendrai peut-être ensuite, et le questionnement des élus, et en particulier cette question qui m'était posée par un conseiller général, pourtant qui se dit lui-même athée, qui disait « Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet devant le manque de prêtres, sachant que les prêtres sont des acteurs sociaux indispensables ?» Vous voyez, je sens bien que l'Église a besoin à la fois de prendre la mesure des difficultés traversées par ces communautés humaines qui sont sur le territoire de notre diocèse, et en même temps, elle est encore interpellée comme capable de donner du sens. L'Église est encore une institution qui peut donner du sens, et c'est important de le rappeler particulièrement à nos communautés chrétiennes pour qu'elles ne se recroquevillent pas sur leurs propres difficultés et leur propre survie, mais qu'elles se rappellent qu'elles ont justement aujourd'hui à apporter au monde d'aujourd'hui, non seulement à collaborer pour la construction d'une société plus juste, mais à apporter aussi un message qui est tout à fait nouveau et plein d'espérance, que le message de l'Évangile.
Alors, vous avez évoqué donc la visite pastorale du doyenné d'Anglet. À Anglet, il y a deux paroisses, paroisse Saint-Jean l'Évangéliste et paroisse Louis-Édouard Sestac. Peut-être un mot par rapport à Louis-Édouard Sestac, où en est son procès de béatification?
Alors, comme vous le savez sans doute, nous avons déposé à Rome le dossier du miracle présumé, qui serait attribué au père Sestac, et nous attendons, j'espère le plus rapidement possible, le verdict de Rome et la reconnaissance finalement de ce miracle pour que le procès de béatification puisse être envisagé, puisque le père Louis-Édouard Sestac est déjà vénérable, c'est-à-dire que le pape Paul VI avait déjà reconnu l'héroïcité de ses vertus. Il ne reste plus qu'à reconnaître ce miracle qui semble d'ailleurs tout à fait positif et tout à fait probant pour pouvoir célébrer la béatification que j'espère nous pourrons célébrer prochainement. Et comme vous le savez, les béatifications maintenant ont été renvoyées dans les diocèses par le pape Benoît XVI, et donc ce sera certainement un événement diocésain de grande importance, car le père Louis-Édouard Sestac, contemporain de Saint-Michel Garicoïtz, est non seulement une très belle figure de prêtre, tout à fait attaché à son ministère pour les hommes, à travers toutes les œuvres sociales qu'il a développées, et en même temps avec un charisme marial tout à fait particulier, je crois, tout à fait d'actualité dans le monde d'aujourd'hui.
Alors, Monseigneur Ayé, vous avez également visité au mois de mai une autre paroisse en Béarn.
Oui, la paroisse de
Saint-Jean-Baptiste de la Cordée.
Oui, Saint-Jean-Baptiste de la Cordée, Les Deuches.
Les Deuches.
Alors, c'est une paroisse.
Pouvez-vous nous dire où c'est, parce que...
Alors, ça se trouve, disons que c'est un peu un croissant de lune qui entoure la paroisse d'Oloron, Sainte-Marie, la Trinité de d'Oloron-Sainte-Marie. Donc, c'est une paroisse qui rassemble 7 à 8 communes. Vous avez Les Deuches, qui est le nom un des villages les plus importants, mais aussi Augeux, qui nous parle, parce que les eaux d'Augeux sont. Mise en bouteille à cet endroit-là. Voilà. Donc c'est une paroisse très attachante où j'ai fait une visite assez éclair, puisque c'était le mercredi et le jeudi de l'Ascension, mais où j'ai pu rencontrer, j'allais dire, un échantillonnage tout à fait représentatif de la communauté paroissiale et de la communauté humaine, les enfants du catéchisme le matin, avec les catéchistes, une petite rencontre intéressante, un déjeuner débat avec des agriculteurs qui avaient été rassemblés par le curé, une rencontre de très grande qualité sur les problèmes d'agriculture, mais aussi l'esprit d'initiative et je dirais le positif et l'enthousiasme de ces agriculteurs tout à fait amoureux de leur métier et conscients de leurs responsabilités. Et l'après-midi, les aînés, à travers les groupes de vie montante, qui sont très actifs dans cette paroisse, le soir, une messe anticipée avec une bonne partie de la communauté paroissiale l'Ascension. Et le lendemain, la grand-messe conclusive avec les élus, une rencontre aussi avec les élus de midi. Et vous voyez, j'ai donc, la veille au soir, une rencontre de travail avec le conseil paroissial et l'équipe d'animation paroissiale en gestation, qui a été aussi très riche en échanges, en partage de réflexions sur l'avenir de la communauté.
Monseigneur Ayé, lors de ces visites pastorales, les paroissiens ne vous mettent pas forcément au vert, comme on dit, dans le sens où vous avez quand même beaucoup de repas, d'apéritifs. Oui, il faut ça fait partie de la visite pastorale.
Il faut tenir le rythme. Je dis souvent que mes visites pastorales, qui sont quand même des visites marathon, avec un timing extrêmement minuté, comme à Cercastet et à Sauvagnon, où c'était 5 jours non-stop, depuis 8h30 du matin jusqu'à 11h du soir, avec dans les interstices et pendant les trajets des arrêts chez des malades et des personnes visitées à qui on a pu donner la communion ou apporter un certain réconfort. Mais je dis souvent que ce sont aussi des visites gastronomiques, parce qu'évidemment, on est toujours extrêmement bien accueillis par les prêtres, les fidèles, les personnes aussi de la société civile qui nous reçoivent, et ils ne savent pas mieux faire que mettre en valeur la richesse de la gastronomie du Sud-Ouest, bien connue.
En tout cas, on ne le voit pas à la radio, mais vous avez très bonne mine aujourd'hui, et j'en profite pour rappeler à nos auditeurs que cette émission est enregistrée le vendredi 28 mai. Venons-en maintenant à la deuxième partie de notre émission. Avec Olivier Drapé, nous allons parler de quelques sujets de société.
Oui, en effet, le dimanche 30 mai, Monseigneur, c'est bien sûr la fête des mères, le jour de la fête des mères, mais c'est également une journée que la Conférence des évêques de France a souhaité destiner à la vie, une journée pour la vie qui a été voulue par l'épiscopat français, comme d'ailleurs cela se fait dans beaucoup d'autres pays, je crois, à l'initiative certainement de Jean-Paul II.
C'est Jean-Paul II, en effet, dans son encyclique « Evangelium Vitae » sur l'évangile de la vie, qui, en demandant qu'on se mobilise pour promouvoir une nouvelle culture de la vie et qu'on s'engage dans une grande stratégie au service de la vie, avait demandé que les épiscopats locaux, nationaux, choisissent une journée dans l'année pour prier particulièrement pour la vie, c'est-à-dire pour annoncer, célébrer et servir l'évangile de la vie. Et les évêques français, en effet, il y a quelques années, avaient choisi le dernier dimanche de mai, qui, dans la société française, comme vous le savez, est traditionnellement consacré à la fête des mères. Donc c'est tout un programme.
Tout à fait. Alors ce jour-là, les AFC, les associations familiales catholiques, organisent une quête au profit des mères ou des futures mères de famille. Cette initiative, d'ailleurs, cette année dans notre diocèse, si je ne me trompe pas, est disons soutenu par l'Académie diocésaine pour la vie.
Bien sûr.
Mais d'autre part, Monseigneur, vous avez participé il y a quelques jours, le mercredi 26 mai, aux côtés du cardinal Jean-Pierre Ricard, à Bordeaux, à la cathédrale de Bordeaux, à une veillée de prière pour la vie, précisément. Alors, de quoi s'agissait-il et quels sont les fruits attendus de cette initiative qui, je crois, est nouvelle pour ce qui est en tout cas de Bordeaux?
Voilà, alors la suite, vous savez, des évêques d'Île-de-France qui, pour la deuxième année consécutive, ont organisé eux-mêmes une grande veillée de prière à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour la vie, pour célébrer l'évangile de la vie. Le cardinal Ricard a eu l'idée lui aussi, à quelques jours donc, de la fête des mères, d'inviter ces diocésains à cette grande veillée de prière pour la vie. J'ai pensé intéressant, puisque c'est l'archevêque métropolitain, d'y participer avec évidemment son accord. Et d'ailleurs, nous en avions parlé un petit peu ensemble sur l'importance que cela pourrait avoir au niveau de toute notre province d'Aquitaine, pour travailler encore plus en concertation et en communion, et en m'accueillant officiellement au début de cette veillée de prière, et en me remerciant d'être là, à ses côtés. Il a même dit, et j'espère que l'année prochaine, cette prière sera encore plus provinciale. Donc nous espérons que tous les évêques de l'Aquitaine, nous puissions nous mobiliser ensemble pour cette grande veillée de prière. Oui, bien sûr que ça paraît... qu'est-ce qui est attendu? C'est une mobilisation et une sensibilisation des consciences chrétiennes autour de cette urgence, encore une fois, d'annoncer, de célébrer, de servir l'évangile de la vie, cette bonne nouvelle de la vie, quand on voit bien que dans les faits, parfois, que dans les législations, eh bien, la vie n'est plus toujours une bonne nouvelle. Quand on sait... hélas, l'importance qu'a encore l'avortement dans notre société française, au moins 220 000 par an recensés, sans compter les autres, quand on sait la difficulté pour les personnes handicapées d'être reconnues comme des personnes à part entière, en particulier avec la systématisation du dépistage de la trisomie 21, par exemple, qui est à l'ordre du jour maintenant de manière officielle, quand on sait aussi combien le débat sur l'euthanasie relance la non-productivité de ces personnes en fin de vie ou malades en phase terminale. Donc c'est pourquoi il faut rappeler que toute vie, selon un principe de dignité qui s'allie à un principe d'égalité, de solidarité entre tous dans une société, entre toutes les générations, depuis la conception jusqu'à la mort, doit être défendue pour qu'on puisse affirmer de manière sereine que oui, la vie est toujours une bonne nouvelle et qu'il ne tient qu'à nous eh bien de mettre en œuvre des conditions sociales qui permettent à toute vie d'être accueillie, d'être promue, d'être accompagnée, d'être protégée, à commencer par la vie des plus faibles. C'est vrai, bien sûr, d'abord de l'embryon et de la vie des personnes handicapées ou de la vie des malades ou des vieillards en fin de vie. Mais c'est vrai aussi à toutes les étapes de la vie, lorsque la vie de l'homme, la dignité de la personne humaine peut être déniée à quelqu'un, peut être abîmée d'une manière ou d'une autre par une injustice sociale, quelle qu'elle soit.
Alors cette initiative, cette veillée de prière pour la vie est tout à fait distincte, mais elle n'est pas non plus sans rapport, disons, avec la marche pour la vie du 29 mai à Bordeaux. Or, cette marche pour la vie ne fait pas l'unanimité, auprès d'ailleurs de certains catholiques également, mais il y a des échos qui peuvent paraître parfois négatifs dans la presse, dans le Sud-Ouest, très, très concrètement, à propos de cette marche pour la vie et par conséquent des inquiétudes aussi qui se sont manifestées. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, j'en pense un petit peu ce qu'en pense le cardinal Ricard, qui, en effet, vous savez que cette marche pour la vie est à l'initiative d'un collectif d'une association qui s'appelle Oui à la vie, qui est composée de jeunes, en particulier d'étudiants pour la vie, qui est aussi une autre association nationale quant à celle-là, souvent de catholiques bordelais, mais sans exclusive, qui ont, à la suite des marches pour la vie qui sont organisées depuis quelques années à Paris, au mois de janvier, ont eu l'idée, à l'occasion de la fête des mères, pour célébrer cette journée nationale de mobilisation pour la vie, donc la veille de la fête des mères, d'organiser cette marche festive en y conviant toute personne sans aucune discrimination, puisque c'est un mouvement, c'est une association qui est à la fois aconfessionnelle et apolitique, même si elle est souvent portée par des catholiques, hein, dirons-nous, qui sont sensibles à cette cause de la promotion de la culture de la vie. Mais tout le monde y est invité de manière personnelle. Ça peut être de diverses confessions religieuses, croyants ou non-croyants, de toute tendance politique même. Il y a absolument la promotion de la vie n'est pas l'apanage d'aucun parti politique, bien entendu. Et le cardinal Ricard avait été attentif, puisqu'ils étaient venus se présenter à lui. Il avait dit, faites surtout attention à toute récupération politique, car vous savez bien que toute défense des intérêts des plus petits ou des plus pauvres est toujours l'objet, et c'est vrai, tout l'échiquier politique est concerné, de récupération de tel ou tel parti. C'est sûr que lorsque l'on va défendre les immigrés et leur dignité dans un pays, on peut être récupéré par tel ou tel mouvement d'extrême gauche. Quand on va défendre la famille traditionnelle et la dignité de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, on peut être aussi récupéré par tel ou tel parti de droite ou d'extrême droite. Bon, il faut évidemment se garder de tout cela. On ne peut pas empêcher la récupération, c'est vrai, mais je crois que les organisateurs de cette marche pour la vie, selon les recommandations qui leur sont faites d'ailleurs par le cardinal Ricard, ont été extrêmement fermes pour dire que cette manifestation doit être pacifique, qu'elle est pluraliste, que toute personne, quelle que soit sa sensibilité, son opinion politique, sa religion ou sa confession chrétienne peut y participer, qu'elle doit être absolument apolitique que les mouvements politiques en tant que tels sont interdits de participation à cette manifestation et ne doivent pas profiter de cette manifestation pour lancer des slogans, faire des déclarations, donner une visibilité à ceux qu'ils sont. Et les slogans eux-mêmes doivent être tout à fait respectueux des personnes et ne jamais mettre en cause quiconque. C'est pourquoi d'ailleurs les slogans sont toujours très positifs. Il ne s'agit pas d'être contre, ni contre l'avortement, ni contre l'euthanasie, mais de oui à la vie, oui à l'accueil de la vie dans toutes circonstances, oui à la famille fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme, etc. Et surtout d'avoir toujours une attitude joyeuse, respectueuse de toutes, vous voyez, manifester le positif de la vie et de la famille, mais sans entrer en contradiction avec les autres, et en les respectant toujours, et en même temps en proposant une alternative à l'avortement, par exemple. Il existe des alternatives à l'avortement que bien des femmes ne connaissent pas, et c'est souvent contre leur instinct maternel le plus présent qu'elles sont, par diverses pressions sociales, souvent contraintes à cet acte irréparable dont elles savent aussi mieux que personne les conséquences dramatiques au plan psychologique, au plan personnel par après. Hein, c'est aussi pour eux. Mais sans juger personne. Hein, il ne s'agit pas de juger, de porter l'anathème. Au contraire, c'est vraiment proclamer d'une manière très festive et très significative avec des familles, des jeunes, des enfants, dans une atmosphère de fête, ce grand oui à la vie.
Ne pensez-vous pas, Monseigneur, qu'il peut y avoir d'autres moyens, peut-être moins spectaculaires, mais en définitive plus concrets, plus efficaces, de défendre et de promouvoir la vie qu'une manifestation qui peut apparaître à certains comme une sorte de provocation?
Alors, toute manifestation, dans la mesure où elle est une expression publique, peut paraître une provocation, mais c'est vrai de toutes les manifestations. Je crois qu'aujourd'hui, pour sensibiliser les citoyens à tel ou tel sujet de société ou préoccupation de société, la manifestation demeure, comme on le voit tous les jours dans les médias, un des moyens privilégiés. Et en l'occurrence ici, il ne s'agit pas tant de défendre les droits d'une corporation, mais au contraire, il s'agit de défendre les droits des autres. Donc je trouve que déjà, il y a une attitude très altruiste dans une manifestation pour la vie, parce qu'il ne s'agit pas de défendre ses intérêts à soi, comme c'est souvent le cas, il faut le dire, et même si ça a toute sa validité pour autant, dans les corporations socio-professionnelles qui descendent dans la rue pour défendre leurs intérêts, à juste titre d'ailleurs, c'est une chose qui leur est permise en démocratie. Là, en l'occurrence, il s'agit de défendre les intérêts de ceux qui n'ont pas de voix, de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, de ceux qui ne peuvent pas se défendre, et c'est pourquoi je trouve cette manifestation, plus qu'une provocation, un souci des autres, hein, et qui est une manière aussi de s'inscrire dans un débat de société qui est démocratique. La manifestation publique est un moyen d'expression, mais il n'est évidemment pas le seul, et il ne doit pas être isolé d'un travail de longue haleine, au jour le jour, de dialogue avec les catégories socio-professionnelles concernées, avec les élus quand il s'agit d'infléchir certains accents de la loi ou de proposer des alternatives sociales à tel ou tel désastre mis en cause ici dans ce genre de manifestation. Et puis il faut aussi que ça s'allie avec des propositions très concrètes comme l'ouverture de maisons pour accueillir des femmes en difficulté, mettre à disposition de personnes en difficulté des moyens humains d'accompagnement, financiers, etc., pour résoudre les problèmes sociaux qui sont souvent, en tout cas en majorité, les causes de ce genre d'actes irréparables contre la vie, comme l'euthanasie ou comme l'avortement.
Une dernière question sur cet aspect de la vie et de l'avortement. On a un peu le sentiment d'avoir affaire à deux catégories, en schématisant bien sûr un petit peu, mais deux catégories de chrétiens ou de catholiques. Certains plus sensibles à la défense de la vie, de la famille ou des valeurs traditionnelles, d'autres plus sensibles aux problèmes sociaux, aux problèmes syndicaux, à la condition des travailleurs, des immigrés, des agriculteurs. Cette dichotomie, est-ce que vous pensez qu'elle est effective, qu'elle est réelle et qu'en pensez-vous ?
Il faut la casser. Hein. C'est évident que la solidarité, d'ailleurs le mot l'indique de lui-même, ne peut pas souffrir ce genre de dialectique, ce genre de division et ce genre d'opposition. C'est vrai que l'idée selon laquelle, si vous défendez la vie et la famille, vous êtes forcément de droite, parce que ce sont des valeurs traditionnelles, sans doute, que la vie et la famille, et l'idée au contraire que si vous défendez les sans-papiers, les chômeurs et les immigrés, vous êtes forcément de gauche, parce que ce sont les problèmes sociaux qui ont été les plus sensibles à une certaine période de l'histoire de nos sociétés occidentales, depuis plus d'un siècle. Tout cela, je pense, tend à être révolu, sauf parfois dans les médias qui aiment toujours un peu cette mentalité dialectique et qui aiment bien opposer les genres. Mais je crois qu'il faut vraiment casser, parce que la solidarité veut dire que l'Église s'intéresse à tous. Elle s'intéresse à toute injustice. Elle s'intéresse à toute personne qui est lésée dans sa dignité et elle ne peut exclure personne. L'Église est toujours inclusive, elle n'est jamais exclusive et elle inclut dans sa préoccupation de solidarité eh bien aussi bien l'embryon, et nous avons tous été des embryons, c'est une réalité qui est incontournable et c'est le fondement même de la vie de tout homme, c'est pourquoi la vie en ce sens a aussi une priorité dans notre promotion de la dignité de la personne humaine, mais elle s'intéresse aussi à l'ouvrier qui ne vit plus du produit de son travail, ou à l'agriculteur. Moi, je suis beaucoup intéressé ces temps-ci aux agriculteurs, et je crois que ce n'est pas terminé, parce que l'agriculture est non seulement digne d'être considérée par l'Église, parce que c'est aussi une question de justice sociale, mais c'est aussi un message que l'agriculture, pour la société d'aujourd'hui, parce qu'elle véhicule encore, dans notre monde rural, des valeurs de solidarité familiale et sociale, qui sont un message pour une société qui est en fracture perpétuelle, en division, en situation d'isolement, particulièrement dans les villes. Voyez, et elle s'intéresse aussi aux mourants qui ont encore de la valeur, à la personne handicapée qui, pour être amoindrie dans son humanité, n'en a pas moins le droit d'exister et n'en apporte pas moins beaucoup à la société, ne serait-ce qu'en suscitant de la générosité et de la solidarité.
Pour clore ce chapitre sur les sujets de société, on ne peut pas ne pas parler quand même des plans de rigueur qui se multiplient en Europe. Le Saint-Père lui-même est intervenu plusieurs fois. Vous-même, sur le terrain, dans le cadre, par exemple, de vos visites pastorales, vous êtes confronté à des personnes qui perdent leur travail, des familles qui ont des difficultés pour boucler leur fin de mois. Quelle est la parole que vous voulez adresser à toutes ces personnes? Et éventuellement, qu'est-ce que vous proposez pour aider ces personnes dans le diocèse?
Alors c'est sûr que ça suppose, évidemment, que tout le monde se mobilise, chacun dans son ordre. Moi, je ne ferai pas pour l'instant de déclaration de type politique, hein, qui m'échappe un peu, car je n'ai pas entre les mains la responsabilité du bien commun de la société dans son entier. Et on sait bien que le bien commun de la société, quand il s'agit d'une nation, a partie liée avec le bien commun de l'Europe et finalement du monde dans la mondialisation des relations sociales et économiques qui caractérisent notre société d'aujourd'hui. Mais moi, j'appelle en effet, face à ces rigueurs dans lesquelles on sent bien tous qu'on est obligé d'entrer aujourd'hui, pour plus de solidarité, de répartition précisément, hein, des richesses et du travail en particulier, qui est la première richesse de l'homme, eh bien on sent bien qu'il faut appeler en effet à une plus grande solidarité, à changer de mode de comportement, à en découdre avec un certain individualisme qui recherche d'abord ses intérêts et qui n'est pas assez soucieux de l'intérêt des autres. Et je note, pour revenir un peu sur cette question de l'agriculture dans notre diocèse, parce qu'il y a encore 10% de la population active ici qui est concernée par l'agriculture, eh bien je note, après ces rencontres que j'ai faite avec les jeunes agriculteurs, que ce soit du côté de Cercas-Tête-Sauvagnon ou que ce soit à Lédoche, eh bien cette capacité de solidarité entre eux, de ne pas être seulement dans l'amertume et la revendication, même si la revendication est nécessaire, mais ils s'organisent ensemble et d'une certaine manière ils se portent les uns les autres et donc ça c'est un facteur d'espérance, je pense. Il faut inviter les uns et les autres à ne pas rester seuls dans leurs difficultés, mais à s'ouvrir aux autres, à travailler ensemble, à se concerter, à réfléchir. Et l'homme ne manque pas d'inventivité et peut aussi repartir dans l'espérance malgré les crises.
Nous passons à notre troisième partie de cette émission consacrée à la pastorale des vocations et à l'année sacerdotale qui suit son cours et qui s'achèvera ce mois de juin. Alors, Monseigneur Hayé, le 25 avril, c'était la journée mondiale de prière pour les vocations. Vous-même, vous avez accompagné les jeunes de la propédeutique sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, où en est la pastorale des vocations dans notre diocèse?
Alors, c'est vrai que à l'occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations, le dimanche du Bon Pasteur, un quatrième dimanche de Pâques, qui est tombé cette année le 25 avril, nous avons lancé une grande collecte pour la propédeutique précisément, avec un dépliant expliquant ce qu'est cette année de préparation au séminaire et donc de discernement et de fondation spirituelle d'une vocation sacerdotale. Et d'ailleurs, je crois que les réponses commencent à venir de manière assez massive. Il y avait même une proposition non seulement d'envoyer une contribution financière, parce que tout ça a évidemment un coût, mais aussi de proposer des intentions de prière. Et on m'a remis aujourd'hui un nombre assez considérable d'intentions de prière que je transmettrai aux jeunes de la propédeutique pour qu'ils puissent les porter eux-mêmes dans la prière. Alors cette année de propédeutique va s'achever cette année, c'est une première bien entendu, hein, puisqu'elle a ouvert, en septembre dernier avec 5 jeunes qui sont presque au terme de leur chemin, après avoir, c'est vrai, fait cette belle expérience du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ils sont partis le dimanche 11 avril depuis Bayonne, accompagnés pour la première étape par les nouveaux confirmés de l'an dernier. C'était une très belle journée. Et puis ils ont continué jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, où ils sont arrivés la veille de l'Ascension. Hein, donc heureux d'être arrivés au terme de leur chemin et de pouvoir célébrer la messe auprès de la tombe de l'apôtre Saint-Jacques. Et moi-même, j'ai pu les accompagner pendant 4 jours. Alors bon, j'ai fait que 100 kilomètres. Il paraît d'ailleurs que c'est seulement après 4 jours qu'on commence à se trouver bien sur le chemin de Saint-Jacques, dont j'ai connu les heures les plus difficiles. Et j'étais content de partager un peu la peine et la difficulté que cela représentait forcément pour ces jeunes de marcher, de parcourir ces 850 kilomètres qui les séparaient depuis Bayonne de Saint-Jacques de Compostelle. Je crois que ça a été une expérience très riche pour eux, non seulement par les rencontres, mais par l'approfondissement de leur propre vie intérieure et aussi bien d'offrir, hein, à travers la peine physique que représente une telle performance, si je puis dire, d'offrande d'eux-mêmes au Seigneur dans un abandon plus grand à la Providence et en vivant vraiment au jour le jour, hein, à la fois en portant leur sac, mais en se laissant porter par ce chemin qui n'est pas sans leur rappeler que Jésus est précisément le chemin, la vérité et la vie. Et je pense que cette expérience peut être fondatrice pour leur propre discernement à répondre à un appel à donner sa vie pour le Christ. Alors maintenant, il reste comme dernière ligne droite une retraite d'élection qu'ils feront du 4 au 14 juin, du 3 au 14 juin à Morez, près de Paris, dans une maison spirituelle des Jésuites, où ils vont avec les exercices de Saint-Ignace, eh bien, choisir hein, au terme de cette année et arrêter un peu leur premier discernement.
Le 14 mai, vous avez fêté Saint-Michel Garicoïs à Bétaram avec de nombreux prêtres, je crois.
Alors, les pères de Bétaram nous avaient en effet proposé, dans le cadre de cette année sacerdotale, une journée diocésaine pour les prêtres à Bétaram, à l'occasion donc de la fête de Saint-Michel Garicoïs. Il y avait une bonne 60aine de prêtres du diocèse qui ont participé à cette journée, une belle conférence du père Gaspard, le supérieur général hein, des Bétharamites, qui étaient venus spécialement de Rome, une messe que j'ai présidée en l'honneur de Saint-Michel, où nous avons évidemment médité sur la disponibilité de Saint-Michel Géricault, ce qu'il exprime précisément par sa belle maxime, hein, l'une parmi les tant d'autres, mais la plus caractéristique, « Me voici, sans retard, sans réserve et sans retour ».
L'année du sacerdoce touche à sa fin, mais elle n'est pas encore terminée et certaines initiatives sont encore ou ont été récemment prises en rapport avec ce thème du sacerdoce. Je pense en particulier à un colloque théologique qui a été organisé par l'Institut catholique de Toulouse au mois d'avril et dont vous avez été l'un des intervenants, le thème étant la dimension missionnaire du sacerdoce. Là aussi, de quoi s'agissait-il et quel a été d'ailleurs le contenu ou l'esprit de votre intervention, Monseigneur ?
Alors, le colloque était organisé par l'Institut catholique de Toulouse, plus exactement par la faculté de théologie, le nouveau doyen qui s'appelle le père Philippe Curbelier. Et il avait invité un certain nombre d'intervenants, à commencer par les évêques, à la fois de la région Méditerranée, puisque nous sommes à Toulouse, qui est l'archevêché métropolitain de la province Midi-Pyrénées et aussi des diocèses d'Aquitaine. Hein. Nous étions 7 ou 8 évêques à participer à ce colloque, mais aussi un certain nombre de théologiens qui venaient d'autres facultés de théologie ou d'autres réalités ecclésiales. Certains sont venus il y avait des dominicains, évidemment, de Toulouse, mais il y avait aussi des professeurs romains, le recteur de la basilique d'Ars, des responsables de communautés nouvelles qui ont toutes été invités à plancher. Alors il y avait le matin, il y avait donc des demi-journées qui étaient présidées par un évêque généralement, et avec deux conférences et deux communications plus courtes qui apportait un éclairage plus concret sur les thèmes abordés. On a parlé essentiellement donc de la dimension missionnaire du sacerdoce ministériel, en parlant à la fois de ce que ça voulait dire, la mission du prêtre dans le monde d'aujourd'hui, mais en particulier dans la communion hiérarchique et dans la communion doctrinale. Alors vous voyez qu'il y avait la dimension à la fois hiérarchique et la dimension doctrinale de l'exercice du sacerdoce qui était abordé par ce colloque, qui a donné lieu aussi à des tables rondes, à beaucoup d'échanges. Et y participaient à peu près 200 personnes, beaucoup de prêtres évidemment, mais aussi des séminaristes de Bordeaux et de Toulouse qui étaient présents, des laïcs et des consacrés.
La pastorale des vocations est une de vos préoccupations principales. Au-delà du bilan que peut-être on peut tirer de l'année de propédeutique dont nous venons de parler, avez-vous des projets pour l'an prochain dont vous pourriez nous parler dès maintenant ?
Alors c'est sûr que la propédeutique d'abord a permis de visibiliser cet appel au ministère presbytéral et donc apporter une certaine sensibilisation dans l'église diocésaine. Grâce d'ailleurs à cette caravane des vocations, hein, ces jeunes qui sont allés régulièrement dans des paroisses à la rencontre des prêtres, des enfants de cœur, des jeunes, des paroissiens. D'ailleurs, ils étaient logés dans les familles. Donc ça a permis là déjà une sensibilisation, je pense, qui portera certainement du fruit, liée à la prière d'adoration perpétuelle qui continue de manière très fidèle à bâillonner à Pau et dont l'intention principale, comme vous le savez, est de demander des vocations au Seigneur pour notre diocèse. Je pense aussi que les vocations naissent dans un milieu porteur, comme pouvait l'être en tant que chrétienté la famille, la paroisse ou l'école catholique, sachant que ce milieu est moins porteur aujourd'hui, bien souvent. Nous réfléchissons avec le conseil épiscopal et à la mise en place d'un internat que je n'ose pas appeler complètement vocationnel parce qu'il ne sera pas exclusivement ouvert à des jeunes qui veulent et qui ont déjà un projet de vocation à l'âge du collège ou du lycée, mais en tout cas qui seront prêts à vivre un certain projet de vie chrétienne, car je pense que les vocations naissent dans ces milieux porteurs que sont les familles chrétiennes, les communautés chrétiennes, qui ont le souci d'initier à la foi chrétienne les enfants et les jeunes par le biais de l'éducation. Et je pense qu'il y a des jeunes qui veulent vivre leur vie chrétienne, parfois même avec un désir de vocation déjà, à l'âge du collège comme à l'âge du lycée, et qui ne sont pas dans un milieu propice pour que cette vie chrétienne puisse se déployer et pour que cette vocation puisse se préciser, et qui ont besoin peut-être d'un lieu d'accompagnement humain, fraternel, spirituel, qui ne les ôte pas pour autant à la société d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je pense en effet à une sorte d'internat vocationnel qui permettrait à ces jeunes, tout en étant scolarisés dans les établissements de l'enseignement catholique comme d'enseignement public, pourraient se retrouver le soir, pendant la semaine, dans un lieu propice, avec une vie de prière, avec une vie d'études ensemble, avec certaines activités qui leur soient proposées.
Dans le cadre de l'année sacerdotale, il va y avoir différents rendez-vous, notamment donc la clôture de l'année sacerdotale par le Saint-Père à Rome.
Alors le 9, 10 et 11 juin à Rome, donc j'accompagnerai une petite délégation de 10 prêtres qui se sont inscrits pour cette rencontre internationale, qui se terminera en effet par une grande veillée avec le Saint-Père et de nombreux témoignages de prêtres sur la place Saint-Pierre. Et le lendemain, par la fête du Sacré-Cœur, donc par une grande messe célébrée par le pape et concélébrée par plus de 8000 prêtres sur la place Saint-Pierre, pour rendre grâce pour ce don du sacerdoce que le Seigneur a fait à son Église, rendre grâce aussi pour la fidélité du Christ, à travers la fidélité de tant et tant de prêtres à travers le monde, et élever une grande supplication vers le Seigneur pour qu'il puisse donner des belles vocations sacerdotales à l'Église d'aujourd'hui.
Monseigneur Haillé, le mois de juin, c'est un mois riche en événements parce que c'est la fin de l'année pastorale, donc beaucoup de mouvements organisent des rencontres de fin d'année. C'est aussi le mois traditionnellement dénomination. Quels sont les rendez-vous importants pour ce mois de juin que vous voulez signaler aux auditeurs?
Alors déjà, moi, je veux signaler l'ordination d'un diacre en vue du sacerdoce pour notre diocèse en la personne d'Armand Payet, qui est un séminariste béarnais qui avait demandé au terme de ses 5 années de séminaire à Bayonne un temps de recul pour mieux mûrir sa vocation sacerdotale, et qui est en stage pastoral depuis un peu plus d'un an dans la paroisse d'Orthès, et qui sera donc ordonné diacre à la cathédrale de Lescar le dimanche 20 juin prochain à 16h30. Voilà, donc c'est une grande nouvelle, une belle nouvelle, de même que l'année sacerdotale s'était ouverte avec l'ordination d'un jeune prêtre, en la personne de Jean Tranvanchin, eh bien, elle se clôturera, on peut dire, dans notre diocèse par un beau signe d'espérance à travers l'ordination d'un diacre en vue du sacerdoce.
Vous remercierez aussi, au nom de tout le diocèse, les prêtres jubilaires.
Voilà, le 25 juin, au lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, eh bien, une belle fête rassemblera tous les prêtres du diocèse qui célèbrent cette année leur 25e ou 50e ou 60e ou même 70e anniversaire de leur sacerdoce. C'est une manière, en effet, de leur exprimer la reconnaissance de l'Église pour tant de fidélité, mais surtout pour leur permettre, encore une fois, de dire leur action de grâce pour la fidélité du Christ dans leur vie sacerdotale.
Du 16 au 20 juin, vous visiterez la paroisse Saint-Sauveur des Robis à Ustaritz.
Voilà, avant l'été, ce sera la dernière visite pastorale dans le Pays Basque intérieur. Et donc, je redécouvrirai de nouvelles réalités de la vie de notre Église.
Merci beaucoup, Monseigneur Haillé, d'être venu donc nous parler de vos préoccupations, des préoccupations de l'Église, du diocèse et de l'Église universelle. Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour la dernière émission de l'année pastorale fin juin. Parlerons certainement de l'année Jacquaire. Nous n'en avons pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est une année sainte pour les pèlerins qui fréquentent les chemins de Saint-Jacques, et ils sont nombreux dans notre diocèse. Pour terminer, on vous a vu sur une photo en Béarn avec les Béarnais qui vous offrent un béret basque.
En effet, oui.
C'est un beau cadeau.
Oui, tout à fait. J'en avais déjà reçu un au Pays Basque, donc je vais en avoir une collection. Mais oui, comme vous le savez, le béret basque est souvent fait au Béarn. Et donc, quand les Béarnais nous disent qu'il est d'abord béarnais, ce béret, je réponds que, en fait, ce sont les Basques qui le portent et qui l'ont diffusé à travers le monde. C'est la raison pour laquelle on peut bien l'appeler le béret basque.
Merci beaucoup, Mgr Ayé, et au mois prochain. Merci.
Merci. Issa Nuncha.
Shema Israël, Aoudi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escoute Israël.
C'était l'entretien du mois avec notre évêque, Mgr Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescarré, Oloron. Vous pourrez écouter ou réécouter cet entretien sur notre site internet www.lapourdi.net à partir du samedi 5 juin.